L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, nous parlons de la semaine de la langue française et de la francophonie, un événement organisé par la Maison des langues de l'Université du Mans qui s'est déroulé du 18 au 22 mars et que prolonge une exposition visible jusqu'au 29 mars à la Maison des langues. Alors pour revenir sur tous ces éléments, je reçois Pierre Salam, directeur de la Maison des langues. Bonjour.
Bonjour Charlie.
Ainsi qu'un étudiant, Adèle Idger, qui a réalisé l'exposition dont il est question. Bonjour également.
Bonjour Charlie.
Puis nous serons avec l'AEH pour nous présenter les 12 heures de l'histoire sur le thème de la musique. Et pour en parler, je serai donc avec Clément de l'Association des étudiants d'histoire. Salut.
Bonsoir Charlie.
Ainsi qu'avec Aurélien Ruellet du département d'histoire de l'université. Bonjour.
Bonsoir Charlie.
Enfin, nous écouterons la chronique philo d'Ismaël. Mais c'est parti tout de suite pour notre premier invité du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Alors Pierre Salam, vous êtes directeur de la Maison des langues à l'Université du Mans et vous êtes accompagné d'Adèle Idger, étudiant. Est-ce qu'on peut commencer simplement par rappeler ce que c'est que la Maison des langues ?
Alors, la Maison des langues, c'est un service de l'Université du Mans qui est ouvert à tous les étudiants et à toute personne qui souhaite apprendre des langues ou des cultures, qui propose plus de 10 langues ouvertes soit en cours du soir, soit en cours de journée, avec des ateliers de conversation, des ateliers d'écriture aussi qui sont proposés, et enfin des cours de préparatoire pour les études universitaires en français.
Et alors vous êtes venu aujourd'hui nous parler de la semaine de la langue française et de la francophonie, qui s'est déroulée du 18 au 22 mars, on va en retracer les différents événements, mais déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel était l'objectif de cet événement en
fait ? Alors ça fait partie des activités qu'on met en place depuis quelques temps, je suis déjà venu parler des 25 heures langue et culture, Et donc ces activités pour diffuser les langues et les cultures au sein du campus et aussi de parler de différents événements. Donc on a fait le choix, on a choisi des éléments qui sont sur les langues maternelles, sur les langues étrangères, mais aussi on a voulu parler de la langue française et de la francophonie, de sa diffusion dans le monde et à travers plusieurs activités puisque c'est quelque chose qui nous rassemble un peu tous, la langue française, la francophonie. Et on a aussi des étudiants internationaux qui viennent étudier en français. Donc on a souhaité diffuser un peu tout ça, c'est pour ça qu'on a fait le choix de mettre en place pour la première fois cette année la semaine de la langue française et de la francophonie.
Ah oui, donc c'est la première fois que cet événement a lieu quoi.
Oui.
Donc il s'agit Et donc il s'agit en fait de mettre en avant la pluralité culturelle de la langue française. En
fait. Tout à fait.
D'accord. Et à quel public est-ce que ça s'adresse ?
Alors ça s'adressait à tout le monde, ça s'adressait aux étudiants bien sûr en premier lieu, mais aussi à toute personne qui souhaite venir assister. Dans les conférences, on va en parler dans quelques minutes, il y avait un peu de tout, il y avait des étudiants, des enseignants ou aussi des personnes qui ne sont pas à l'université qui sont venues assister.
Ok. Alors plusieurs activités et manifestations ont été proposées tout au long de la semaine, à commencer par des lectures francophones à la bibliothèque universitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ?
Bien sûr, mais ça a été la fin en fait, Charlie. On a fini par les lectures francophones, c'était le club de lecture où peut-être que... Vous évoquez une autre activité, mais le club de lecture qui a eu lieu le vendredi était autour de la littérature francophone, Français sans frontières.
D'accord.
Et qui était une découverte. Tous les participants étaient invités à ramener un peu leurs livres francophones, qu'ils estiment comme francophones, pour les présenter les uns aux autres. Il y a eu aussi une activité de lecture, mais qui n'est pas en direct avec le... Je pense que c'est là où la confusion avec la semaine de la langue française, mais qui était organisée par la bibliothèque.
Okay.
Autour de... Parce qu'on est aussi sur le mois de... On est sur le printemps des poètes.
Okay.
Et autour de l'état de grâce. Donc il y a eu aussi des activités qui ont été organisées, notamment par des étudiants du département lettres qui ont organisé des lectures. Et je pense que c'est là où la confusion est
peut-être,
arrivée.
C'est peut-être ça, effectivement. Mais alors du coup, pour parler de littérature francophone, est-ce que vous avez des auteurs francophones à nous conseiller absolument, Pierre Salam ?
Alors des auteurs francophones, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'auteurs francophones. Alors, je pense à François Cheng, qui est un auteur francophone qui est aussi à l'Académie française, ou Amin Malouf, qui est aujourd'hui devenu le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Mais on a aussi d'autres auteurs francophones qui viennent d'autres pays, comme l'Algérie, le Maroc, dont les noms m'échappent tout de suite, mais peut-être que Adèle pourrait en ajouter quelques-uns, des auteurs francophones.
Je parlerai de Mouloud, Mouloud Feraoun et Mouloud Marmik.
Ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Le 19 mars a eu lieu une conférence sur la francophonie en Inde. Alors, c'est vraiment pas le premier pays auquel on pense quand on parle de francophonie. Qui donnait cette conférence déjà?
Alors, cette conférence a été donnée par notre collègue Chitra Madomerkandi, qui est née dans un comptoir français en Inde et qui par la suite est venue en France. Son père travaillait à l'armée française. Donc par la suite, elle a décidé de venir en France. Elle est aujourd'hui enseignante d'anglais à l'Université du Mans. Et elle a voulu nous parler un peu de l'histoire de la francophonie en Inde et des différents comptoirs français. C'était assez intéressant. Et même, pourtant, je connais un peu la situation de l'Inde. Ouais. J'ai appris pas mal de choses.
D'accord.
Comme quoi, la France est partie d'Inde après l'Angleterre.
Ok.
Et que ces comptoirs avaient une situation très particulière. Et les habitants de ces comptoirs avaient aussi des passeports très particuliers. Et c'est assez intéressant.
C'est-à-dire
que ces passeports ne leur permettaient pas de voter en France. Ils étaient considérés comme des citoyens français. Ils avaient le droit de venir en France, mais ils n'avaient pas le droit de voter, ils n'avaient pas le droit d'acheter.
D'accord, ok. C'est étonnant. Et alors pourquoi cette ostracisation? Parce que c'en a un peu une quand même.
Oui, mais c'était l'époque des colonies, donc je pense que mon collègue peut en parler aussi. Il y a pas mal de choses sur les colonies qui sont un peu... Aujourd'hui, on les trouve un peu surprenantes, mais qui à l'époque étaient tout à fait normales.
Ah oui, parce que c'était des Indiens qui avaient le passeport français. D'accord, je pensais que c'était des Français qui vivaient en Inde.
Il y a toujours eu une distinction, mais même dans la conférence suivante sur le Québec, on nous a parlé aussi de la distinction entre les Français venant de France et les Français de l'étranger.
D'accord, ok.
Mais on parle d'une époque qui est révolue aujourd'hui.
Oui, heureusement. Alors, il y a aussi eu le 20 mars une conférence sur la francophonie au Québec, ce qui nous semble déjà plus familier. Quels étaient les enjeux de cette conférence proposée par Alain Charpentier et Anne-Marie Aubin?
Alors, nous avions eu la chance d'avoir... C'était la visite de nos deux collègues, Alain Charpentier et Anne-Marie Aubin, qui travaillent en Gaspésie. Donc, la Gaspésie, on le dit, tout le monde ne sait pas où c'est au bout du Québec.
D'accord.
Et même Gaspésie, ça veut dire bout du monde. C'est un peu comme le Finistère chez nous.
Donc, en quelle langue ça?
En langue Micmac, donc langue indienne. Donc, enfin, autochtone, comme on dit, excusez-moi pour l'erreur française. Du coup, Alain et Anne-Marie sont venus nous parler un peu de l'histoire du Québec, de l'histoire de la France. Donc, ils ont commencé depuis la Nouvelle-France et ils sont arrivés progressivement vers le Québec moderne. Et on a découvert des artistes québécois qu'on ne connaît pas tous, comme les Cowboys Fringants.
Ah, moi, je connais.
Et du coup, on a aussi écouté des chansons, a découvert les repas. Et puis, ils ont eu un discours à la fin sur la place du français au Québec et l'importance de continuer à défendre le français au Québec.
Et d'ailleurs, oui, c'est une question que je me suis souvent posée. Comment est-ce que le français s'est-il autant imposé au sein d'un pays qui pourtant est anglophone, le Canada?
Oui. Alors, il faut savoir que c'est historique. Alors, Alain pourrait parler mieux que moi de ce sujet, puisque je lui ai posé la même question quand je l'ai rencontré il y a quelques années au Québec. Et c'est dû à différents éléments. Un élément déjà identitaire. Donc, les habitants du Québec, actuel Québec, qu'on appelait les Canadiens francophones, souhaitaient garder cette identité. Et c'est aussi la place de l'Église catholique qui a voulu garder un certain contrôle sur cette région à travers le français. Donc, ce qui a fait que le français est resté dans ce pays.
D'accord. Et alors, ces mêmes intervenants proposaient ensuite un atelier d'écriture intitulé « État, entre parenthèses S, de grâce en francophonie ». Est-ce que vous en savez davantage ?
Bien sûr. ça, c'est pour rappel. On a organisé avec la BU depuis le début de l'année des ateliers d'écriture ouverts à tous. Donc, tout le monde peut venir. Et chaque mois, il y a une thématique et on essaye toujours d'avoir un rapport avec ce qui se passe dans l'actualité. Et donc là, du coup, c'était le printemps des poètes, donc sur l'état de grâce et la francophonie. Donc on a dit état de grâce en francophonie. Et on a travaillé sur ce sujet avec Alain et Anne-Marie et ils ont animé un atelier autour de ces notions-là, de grâce, que veut dire état de grâce et comment... À quel moment on atteint l'état de grâce, et on a écrit des textes très intéressants par rapport à ça.
D'accord.
Et vous devriez venir, Charlie, on vous attend à l'atelier d'écriture.
Mais qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, état de grâce, en fait?
Alors, ça dépend de chacun. État de grâce, il y a toujours un sens, poétique, un sens religieux dans état de grâce. Alain a présenté quelques citations qui montraient que l'état de grâce est un état qu'on arrive une fois qu'on est dans un état de bonheur, et une fois qu'on monte petit à petit, et on peut arriver à cet état de grâce où on sent que on peut tout dépasser. On le retrouve aussi dans le sport, figurez-vous, Charlie. On peut aussi trouver dans le sport, une fois qu'on va très loin dans le sport ou très loin dans un marathon, on peut arriver dans cet état de grâce.
Le sport que je pratique très peu, c'est peut-être pour ça que je ne sais pas ce que c'est l'état de grâce. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a un enjeu particulier entre état de grâce et francophonie ? En fait, je ne comprends pas forcément le lien qu'il y a entre ces deux choses.
Alors le lien, il est tout à fait, on va dire, déjà le fait que ce soit le printemps des poètes sur l'état de grâce. Et la francophonie, c'est quelque chose qui nous rassemble les uns et les autres. Donc on a dit qu'on va mélanger les deux. Après, on n'a pas réfléchi plus que ça, je vous l'avoue.
Et alors, est-ce que les productions de cet atelier sont visibles, exposées quelque part ?
Alors, c'est le choix de l'atelier d'écriture qu'on anime, c'est que chaque personne emmène ses productions avec elle.
D'accord.
Donc, si vous souhaitez les laisser, vous pouvez lire ou pas. C'est vraiment, on est vraiment sur une liberté de chacun. Donc, certes, mais on n'est pas dans une logique d'exposition comme ce qu'on va évoquer dans quelques minutes.
Et alors, la semaine s'est terminée, on l'a évoqué au début, par une séance dédiée aux lectures francophones avec le club de lecture de l'université le 22 mars. Vous savez quels auteurs ou quelles œuvres d'ailleurs ont été abordées pendant cette séance ?
Alors, je ne les connais pas, à vrai dire, parce que je n'ai pas pu assister à cet atelier de lecture.
Il n'y a pas de souci.
Mais chaque personne a ramené des ouvrages et ils ont discuté entre eux à partir de ce sujet.
Ça marche. Donc, ça a permis de découvrir plusieurs auteurs.
Tout à fait. J'en parle parce que le club lecture, on l'a lancé il n'y a pas longtemps. C'est mes collègues Marianne Cornuel et Justine Guillet-Austin qui l'ont lancé. Et il a lieu une fois par mois. Donc, j'invite aussi tous les passionnés de lecture à venir vers l'université pour participer à cet atelier.
Ça marche, merci beaucoup. Mais alors, il y a un élément de cette semaine de la langue française et de la francophonie que nous n'avons pas encore abordé, Pierre Salam, il s'agit de l'exposition #ment français, c'est ça ? C'est un titre assez énigmatique. Je me tourne vers vous, Adèle Idjir, c'est vous qui l'avez réalisé, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors je commencerai par le titre déjà.
Oui.
Ment français, #ment, comme le ment.
D'accord.
Français, le jeu de mots était, était voulu, c'était volontaire,
okay.
Il fallait donner une petite connotation avec la ville et l'événement. Ensuite, si ça sonne comme mon français, ça veut dire le français, le mien, mon français à moi, c'est parce que je ne suis pas français, mais je suis francophone.
D'accord.
Et le français a été ma langue depuis un très jeune âge, une langue que j'ai apprise, ensuite que j'ai pratiquée. Le rapport que j'ai à cette langue est peut-être un tout petit peu ou un point différent du rapport des Français à leur langue à eux.
C'est pas votre seule langue, du coup.
Ce n'est pas ma seule langue. Et ce n'est pas ma langue maternelle. C'est une langue que j'ai choisie.
D'accord.
Donc, c'est une langue que je pratique à mon aise. Et c'est pour ça que le titre, c'était « Mon français à moi ».
Ça marche. Et alors, pourquoi vous l'avez choisi, cette langue, alors ?
Bah, je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas, mais en tout cas c'était une langue dans laquelle je trouvais un petit peu la possibilité de m'exprimer sur certains sujets. À ce jour, même quand je parle à des gens kabyles comme moi, sur certains sujets, je préfère utiliser le français.
D'accord.
Je ne suis pas le seul. Le français est la deuxième langue parlée chez moi. Ce n'est pas une langue totalement absente, mais ce n'est pas notre langue maternelle non plus. C'est une langue qu'on a choisie.
C'est très étonnant ce que vous dites. C'est sur quel type de sujet alors que vous préférez passer au français ?
Alors ça dépend. Par exemple, ce sujet-là, l'exposition, pour l'expliquer, la présenter, en parler, je serais plus à l'aise en français. Alors je sais que c'est peut-être une question d'habitude. C'est peut-être une question d'habitude. Parce que c'est vrai que... il est plus facile, il est plus simple de trouver ces termes dans une langue plutôt que dans une autre. Mais voilà, en tout cas, il y a certains sujets que j'aborde uniquement en français.
Mais vous ne sauriez pas trop identifier ce qui fait que vous basculez d'une langue à l'autre ?
C'est-à-dire, je n'ai pas compris la question.
C'est-à-dire, puisque vous basculez, par exemple, sur le français pour certains sujets, vous identifiez pas qu'est-ce qui fait que vous basculez sur cette langue-là ? C'est intuitif, en fait, quoi.
Je pense que c'est une question de pratique. J'ai surtout pratiqué ces sujets-là en français. J'ai surtout lu sur ces sujets-là en français parce que je lis beaucoup en français. plutôt que dans d'autres langues.
D'accord.
J'écris plus en français que dans d'autres langues. Mm. C'est ce qui fait ça. Ensuite, il y a certains sujets où j'utilise d'autres langues aussi. Mm. En fait, c'est une question d'information. La langue avec laquelle j'ai appris l'information, je serai plus à l'aise à l'expliquer dans la même langue. Mm. Donc, les sujets comme ça, c'est en français. D'autres sujets, ça serait l'arabe ou le kabyle.
D'accord. Alors, l'Expo, en tout cas, parle de l'influence de la langue française sur celle d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette influence?
Oui. Alors, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, c'est des régions que je connais un petit peu le plus, mais il faut savoir que ce n'est pas les seules régions qui sont francophones dans le monde, et heureusement, le français est aujourd'hui parlé dans les 5 continents du monde, c'est l'une des 2 langues parlées sur les 5 continents. Mais j'ai pensé à cette exposition, surtout lorsque j'ai remarqué certains termes qu'on utilisait chez nous, sans faire attention en fait.
D'accord.
Je vous donne un exemple. Par exemple, vous parlez à un Algérien, vous êtes en train de lui parler sur, par exemple, les extraterrestres, et il vous dira « mais existe-t-il ? » Ça veut dire « il n'existe pas ».
D'accord.
Et lui, il n'est pas en train de parler en français pour lui. Hein. Mm. Ce n'est pas du français. Lui, il est en train de parler en algérien.
D'accord.
Il vous dira « mais existe-t-il ? » Et vous allez voir ici le terme « exister » qui est au milieu. Mais vous avez « ma » au début et le « che » à la fin que vous entendez « mais existe-t-il ? » En fait, c'est la négation. Et c'est la négation dans la langue locale.
D'accord.
Et c'est ce qui... Par exemple, je vais dire un mot local. Le manger, on l'exprime en mot local, on dit « manakulch ». Donc, vous entendez bien le « ma » au début et le « cha » à la fin, avec un mot local. Mais ils font la même chose avec des termes en français. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est lorsque j'ai remarqué qu'on prenait un mot étranger, qui était le français, on se l'appropriait, on en faisait un autre mot, on en faisait un autre mot à nous, et on lui faisait appliquer nos règles grammaticales.
Ouais. D'accord.
Donc c'est comme si on s'appropriait le mot. C'est ce qui m'a un petit peu questionné pour faire cette exposition.
Ça marche. Et alors comment l'expo, est-ce qu'elle rend compte de tous ces questionnements-là? Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette expo en fait?
Dans cette expo, vous allez voir surtout des mots qui sont exposés. C'est des tableaux, excusez-moi, avec, c'est des tableaux avec des photos en arrière-plan de ces régions du monde. Donc ça va du Maroc jusqu'à l'Irak, même des pays que je ne connais pas forcément ou je n'ai pas habité forcément. J'ai fait quelques recherches pour trouver ou pour piocher les termes français qu'ils utilisent. Et ensuite, vous allez voir le mot en français. Hein, ce que vous pouvez lire par exemple sur le premier que j'ai sous les yeux, c'est bien écrit et je lis. En Algérie, on ne dit pas « ne bouge pas ». En Algérie, on dit « met bougiche ».
D'accord.
Et donc, ça, c'est comme ça. En Maroc, on ne dit pas ceci, on dit cela. En Tunisie, on ne dit pas ceci, on dit cela. Mmh. C'est ce que vous allez voir. Vous allez découvrir hein, certains mots en français, d'abord. Mmh. Et ensuite, la manière avec laquelle on les utilise dans ces régions du monde.
Je vous remercie. Il va falloir qu'on se presse un petit peu. Je suis un peu en retard. Je profite quand même, Pierre Salam, de votre présence pour vous permettre d'annoncer la deuxième édition d'un événement que nous avions déjà abordé dans l'amphi. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit?
Oui, il s'agit des portraits de l'exposition « Les portraits d'exilés ». Donc on avait mis en place ça au premier semestre avec les étudiants du DU Passerelle. Alors je rappelle, le DU Passerelle, c'est une formation pour préparer les étudiants à entrer à l'université, donc qui accueille uniquement des étudiants réfugiés ou demandeurs d'asile. Donc je travaille avec les étudiants de niveau B2 pour qu'ils réalisent des portraits d'eux-mêmes, donc de leur parcours, de leur réussite et de leur de ce qu'ils souhaitent faire par la suite. Et dans chaque portrait, il y a un petit QR code à la fin qui permet de, en cliquant sur le QR code, vous pouvez voir une vidéo ou un audio où l'étudiant va parler. Ça va permettre aussi de connaître un peu ses parcours, de les connaître un peu mieux, et de, si vous pouvez, aussi les accompagner, les rencontrer, et puis échanger avec eux, ils seront très heureux.
Et il me semble que vous insistez sur un thème particulier pour cette deuxième édition.
Alors, cette année, on est plutôt sur la résilience, parce que je souhaitais que vraiment on réfléchisse résilience et ambition. Le premier parcours, j'ai trouvé qu'on était beaucoup sur le passé, et j'ai souhaité que les étudiants de cette année réfléchissent vraiment à la notion de résilience et comment avancer dans leur parcours et pouvoir réussir et intégrer soit l'université, soit le monde professionnel, comme ils veulent, mais vraiment avancer.
Je vous remercie Pierre Salam.
Merci à vous Charlie.
Venu nous parler de la semaine de la langue française et de la francophonie et de l'expo qui l'accompagne, présentée donc par Adèle Hidjer. visible à la Maison des Langues jusqu'au 29 mars, ainsi que la deuxième édition des Portraits d'Exilés. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Merci.
On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez gagner des places pour Étienne Fletcher le 29 mars au Palais des Congrès, soirée Le Mans Pop Festival, en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Voyage, Voyage, mais la reprise de Soap and Skin.
Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sur le tapis du vent. Voyage, voyage, éternel. Je m'arrête devant l'Espagne plus d'équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et les jours. Voyage dans l'espace. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais les réviens. Sur le Gange ou l'Amazon, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, Fiji ou Fushihama. Voyage, voyage, ne t'arrêtez pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et les jours. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage sur l'eau sacrée. Plus loin que
retour dans l'amphi et nous allons à présent parler des 12 heures de l'histoire, un événement qui aura lieu le 27 mars et qui tournera autour du thème de la musique. Et pour en parler, je suis avec Clément Rotureau de l'Association des étudiants en histoire. Salut Clément.
Bonsoir Charlie.
Et alors vous êtes accompagné aujourd'hui d'Aurélien Ruellet, co-directeur du département d'histoire de l'université. Bonjour.
Bonjour Charlie.
Alors Clément, tu es chargé de médiation à l'Association des étudiants d'histoire. Est-ce que tu peux commencer par nous rappeler ce que c'est que cette association ?
Alors l'AEH, l'Association des historiens du Mans, elle fait des événements au cours de l'année, que ce soit des conférences, des jeux parfois. On a fait une soirée loup-garou en début d'année.
Ça marche.
Voilà, on fait principalement des conférences, c'est ça, des événements. On a fait Campus en Fête, Forever Young, où on a participé.
Et alors qu'est-ce que c'est que les 12 heures de l'histoire du coup ?
Peut-être en dire un mot. Les 12 heures de l'histoire, ça a commencé sous un format un peu plus ambitieux. C'était les 24 heures de l'histoire. Ça avait été monté à l'initiative d'un collègue qui habite toujours au Mans, mais qui est maintenant à l'EPHE à Paris, Dominique Avon. Quand il était directeur du département d'histoire, il y a une dizaine d'années, avait créé cet événement qui était l'occasion de rassembler en fait la communauté des historiens sur le campus du Mans, à la fois les enseignants et puis les étudiants autour d'un thème. Et donc depuis lors, chaque année, on essaye d'organiser ça. Alors on est passé à un format un peu plus réduit parce que finalement les 24 heures, c'était quand même peut-être un peu indigeste. Donc 12 heures, c'est suffisant. Et puis voilà, on navigue d'un thème à l'autre. Donc il y a quelques années, on avait fait ça sur la désinformation. On avait eu une édition autour du son, non pas de la musique, mais du son. Il y a 2 ou 3 ans, c'était sur la question de la vulgarisation historique.
Okay.
Et l'année dernière, c'était sur le sport. Voilà, donc là, ces années-là, on est sur des thèmes un peu ludiques, parce que c'est aussi une manière de fédérer les étudiants et les collègues autour d'un thème pour se faire plaisir aussi. Quoi.
Ça marche. Alors, donc, c'est un événement qui est organisé par l'Association des étudiants d'histoire et par le département d'histoire de l'université, c'est ça ?
Tout à fait. C'est une sorte de coproduction. Depuis quelques années, l'AEH est de plus en plus présente dans l'organisation de l'événement, ce qui garantit aussi la présence des étudiants et puis l'adhésion des étudiants au dispositif. Mais les enseignants participent aussi via des conférences, dont Clément en dira un mot. Tout à l'heure,
ouais,
probablement.
Effectivement. Donc, on l'a dit, le choix du thème cette année, c'est la musique. Alors, qui seront les différents intervenants cette année pour parler de ce thème en histoire ?
On aura 7 professeurs qui seront présents.
Ok.
Donc, passons par toutes les époques, sauf une, le médiéval, qui n'a pas de représentant cette année.
D'accord.
Mais qui est présente sur l'affiche.
Mais qui n'est pas présente pour les conférences. Les professeurs de l'université n'ont pas assez de connaissances sur ce jeu-là.
Alors, est-ce qu'on peut parler un peu du coup du programme de la journée qui commence par une présentation du Dicopolis ? Alors, qu'est-ce que c'est ?
Dicopolis.
Alors, Dicopolis, moi, j'en fais pas partie, mais je vais porter la parole d'Hervé Guillemin pour la bonne cause. Dicopolis, c'est un projet qu'a initié Hervé Guillemin, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université du Mans et qui est spécialiste de l'histoire de la santé. Et il y a donc 2 ou 3 ans, il a monté un collectif de recherche qui associe autant des collègues au Mans, mais aussi dans d'autres universités et à l'étranger, mais aussi des étudiants autour du thème de la santé. Donc Dicopolis, c'est un acronyme, ça veut dire Dictionnaire politique de l'histoire de la santé. Donc Hervé Guillemin, chaque année, fait travailler des étudiants de L2, de L3 et de Master sur des thématiques d'histoire de la santé, alors sous différentes formes, soit sous forme de billets internet qui sont publiés sur un site, soit sous forme de petites vidéos de médiation, soit sous forme de podcast. Voilà, un certain nombre de médias qui permettent de relayer ces travaux. Et dans le cadre des 12 heures de l'histoire, Dicopolis sera présent à travers l'évocation de notices qui sont en lien avec la musique.
D'accord.
C'est ça, ou aussi présenter le dispositif au L1, qui ne connaissent pas obligatoirement, ou des personnes extérieures qui viendraient. Okay. Et les notices seront un peu présentées, mais ils font aussi le jeu qu'ils font chaque année, ils font un count. Donc c'est un jeu qui peut être fait qui est fait avec nos téléphones, où il y a des questions qui apparaissent sur le vidéoprojecteur et on répond chacun sur nos téléphones,
okay,
avec des petits lots à gagner à la fin, comme ils font chaque année.
Et alors on enchaînera ensuite sur des conférences par Hervé Guillemin, justement, on parlait de lui, ainsi que Laurent Rop. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux premières conférences ?
Oui, alors la première conférence de M. Guillemin se porte sur Jean-Luc de la Ténia.
Non, Jean-Luc Le Ténia.
Jean-Luc Le Ténia, excusez-moi.
Jean-Luc Le Ténia, que certains manceaux ont bien connu, qui était un chanteur à texte, avec une production absolument prolifique, plusieurs centaines de chansons.
Et, mais qui n'est pas du tout un personnage historique, en fait, quand je alors, me suis renseigné.
Alors, c'est pas un personnage historique, parce qu'il est, il fait partie de l'histoire très contemporaine, mais il a eu une aura, une légende.
D'accord.
Qui fait qu'on le considère, dans certains milieux, de la chanson alternative, comme étant une figure iconique.
Ça marche. Donc là, c'est, on est vraiment sur de l'histoire très, très contemporaine. Quoi.
C'est ça.
Effectivement.
Et donc, après, pour la conférence de M. Ropp, elle considéra sur les chants des psaumes chez les protestants français, okay, du 16e au 21e siècle.
D'accord.
Donc, qui est son sujet d'étude de base, lui qui travaille sur les protestants sur cette même période, et qui permettra de voir comment cet héritage du protestant est vraiment une véritable marqueur identitaire pour eux.
Alors oui, d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas spécifié quand même sur la conférence de Jean-Luc Le Ténias, c'est qu'elle est sous-titrée « Le meilleur chanteur français du monde ».
C'est ça.
C'est comme ça qu'il aimait à se présenter voilà, quand il était en phase ascendante de carrière. Et donc Hervé Guimain parlera aussi, au-delà de sa musique, de sa personnalité. Mm. Et puis d'un destin qui a été un peu tragique, puisque Jean-Luc Le Ténias est décédé brutalement, je crois que c'était en 2007.
2011. Voilà,
donc, 2011, pardon. Donc il parlera de ce, aussi de, un peu de cet itinéraire.
Alors en tout cas, on n'est pas du tout sur les deux mêmes centres de musique, quoi. On est sur du... Alors le chant des psaumes chez les protestants français, d'ailleurs, ça porte sur quelle époque, pardon?
Du 16e au 21e siècle.
Ouais, d'accord. Donc on a du classique et on a du contemporain,
c'est ça,
on va dire.
C'est son sujet d'étude est à peu près sur les mêmes dates.
D'accord. Donc ça ouvre déjà sur une certaine diversité de sujets.
C'est
quoi.
Ça.
Alors à 15h, il y aura le... Alors pardon, non, j'ai sauté une étape. Il y aura d'abord une conférence à l'amphi Mersenne sur la figure justement de Mersenne. Alors qui était-il au fait et sur quoi portera la conférence?
Je vais laisser mon...
Oui, alors c'est moi qui me chargerai de cette conférence. Alors lors de la dernière Biennale Le Mans Sonore qui a eu lieu en janvier dernier, j'ai fait une petite exposition à la médiathèque qui portait sur Mersenne, que peu de gens connaissent finalement localement, même si à l'université il y a un amphi qui porte son nom, même s'il y a une petite rue du Père Mersenne, pas très loin de la préfecture, alors que Mersenne en fait c'était une figure très importante de l'histoire des sciences du XVIIe siècle, il a été le contemporain de Descartes, le correspondant de Descartes également.
Ah oui, d'accord.
Et on considère que c'est l'un des fondateurs de la science expérimentale moderne, et l'un de ses champs d'investigation c'était l'acoustique.
Ah.
On considère que c'est un peu le fondateur de la science acoustique, et du coup, il s'est aussi un peu intéressé à la musicologie, avec une démarche aussi, on parlait du Québec tout à l'heure, une démarche un peu ethnomusicologique. Mersenne, c'est l'un de ceux, par exemple, qui a recueilli parmi les premiers des chants d'Amérique du Nord et qui en a proposé une transcription sous forme de partition. Il ne les a pas recueillis directement parce que c'était un religieux qui était plus ou moins coincé dans son monastère à Paris, mais via son réseau de correspondance, il avait recueilli des chants d'Indiens Hurons dont il a proposé une transcription dans les années 1630. Et c'est la première fois qu'en Europe on voyait arriver des partitions de chants extra-européens.
Donc c'est pas étonnant, en fait il y a un amphi Mersenne à la faculté du Mans qui est spécialisé dans l'acoustique, quoi.
Tout à fait, et ce que j'ai oublié de dire c'est que s'il y a un amphi Mersenne, c'est parce que Mersenne est né en fait à 20 km au sud
plus.
Du Mans, dans la paroisse d'Oisé.
Ok, ça marche.
Donc c'est un peu le héros local, la gloire locale de la révolution scientifique.
Alors à 15h, il y aura le K-Out d'or. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu?
C'est un jeu. Donc d'accord, on va partir. Ça remplace, habituellement, on a le question pour un César.
Ok.
Et là, on a décidé de remplacer pour que le plus de monde puisse rester le plus longtemps possible. On trouve que le question pour un César était trop limitatif.
Ok.
Limitait trop au nombre de personnes après un tour. Donc là, on va enchaîner plusieurs K-Out sur des thèmes complètement différents.
Alors pardon, mais moi, je connais pas du tout le K-Out. C'est
le
quoi?
Le K-Out,
en fait
c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est un jeu donc qu'on fait sur téléphone. On projette les questions sur l'écran, sur un écran géant. Donc là, on sera dans une salle, on aura un écran vidéoprojecteur et on répond tous chacun depuis notre téléphone.
Et ceux qui n'ont pas de téléphone perdent d'emblée. Hein.
c'est ça.
Du coup, oui.
Ou on peut répondre sur ordinateur, tablette.
Et ce sont des questions de quel type, du coup?
Hors team de la musique, principalement.
Ouais. La culture générale sur la musique.
Culture générale pour le premier. Et après, on va vraiment partir sur des thèmes plus spécifiques, chansons françaises, mi-temps de Super Bowl.
Ok, d'accord.
Certains thèmes très compliqués et d'autres beaucoup plus ouverts.
Ça marche. Donc il faudra être général et spécialisé en même temps.
Il faudra être général pour connaître même dans les sujets, mais il faudra espérer que le sujet qu'on apprécie tombe au bon moment pour pouvoir aller le plus loin possible.
Alors puis on revient sur... Il y aura pardon, une récompense pour le gagnant peut-être ou...
Oui, okay. Oui, bien sûr.
Ce sera quoi?
Ça sera des livres.
Ah,
super. Des livres d'histoire.
Formidable.
Des livres d'histoire. En général donnés par les collègues.
C'est ça.
Super ça. On revient sur des conférences avec musique et société à l'époque romaine. Sylvie Granger, historienne de la musique et de la danse à l'époque moderne. Et enfin, source et archives de la chanson, un enjeu historiographique. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de toutes ces conférences?
Alors, pour la première, donc, elle est faite par M. Antonio Romano, qui est un professeur qui est arrivé l'année dernière à l'Université du Mans. Et donc, il veut nous présenter les lignes générales et les instruments musicaux romains, les différentes formes de musique à Rome et les occasions pour les productions de musique. Et plus spécifiquement, il souhaite mettre en relief le rapport étroit entre la musique et la société romaine.
D'accord, ok.
Donc après, on partira sur une toute autre conférence, donc en hommage à Sylvie Granger, qui était une professeure d'histoire...
Ah, c'est Granger, pas Granger, pardon.
Granger, oui. Qui était professeure d'histoire au Mans, et qui est décédée l'année dernière. Ah. Et donc, ces deux professeurs veulent lui rendre un hommage par cette conférence.
Ok.
En expliquant, monsieur Laurent Bourquin va présenter ses travaux, ses méthodes et ses principaux résultats sur l'histoire de la musique et de la danse à l'époque moderne, dont elle était la plus grande spécialiste.
Okay.
Alors que monsieur Benoît Musset présentera l'enquête du musée Frem sur la musique d'église à la fin de l'Ancien Régime, qui a donné lieu à la création d'une base de données nationale et dont Sylvie Granger était activement participée.
D'accord.
Voilà, elle avait reconstitué avec des collègues en fait tout le personnel des musiciens d'église à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Et donc c'était un projet assez intéressant puisqu'il était collaboratif. Tout le monde dans sa région, dans son département, était invité à aller aux archives départementales pour venir nourrir une base de données sur les musiciens d'église. Et effectivement, Sylvie Granger était l'une des principales historiennes de la musique et de la danse de la France d'Ancien Régime.
Ça marche. Et alors du coup, sur la dernière conférence, sources et archives de la chanson, un enjeu historiographique.
Donc elle sera présentée par Marie Goupil-Lucas Fontaine, qui est arrivée à l'Université du Mans cette année, et qui est elle aussi spécialiste de l'histoire de la chanson au 19e et 20e siècle. Donc elle présentera une conférence sur les sources et les méthodes qui permettent de faire l'histoire de la chanson au 19e siècle, où la chanson transite essentiellement par l'imprimé musicaux, et donc elle va aller jusqu'aux vidéos YouTube, en passant par les cylindres, le disque ou la radio. Elle expliquera comment aborder ces sources au prisme de la discipline historique, les contextualiser et les faire parler au-delà du contenu textuel.
Alors c'est peut-être un détail, mais je voulais simplement savoir ce que signifie historiographique en fait. C'est quoi la distinction avec historique ?
Alors quand on parle d'historiographie, c'est qu'on s'intéresse à la façon dont l'histoire est écrite. Donc quand on va parler des courants historiographiques, en fait, on parle des courants d'historiens et de la façon dont ils écrivent l'histoire. Voilà. C'est un mot qu'on utilise pour impressionner les géographes ou les gens de son
Ça marche. Alors parmi ces conférences, j'ai cru comprendre qu'il y a des conférences chantées, c'est ça ? Comment
Alors,
ça marche ?
Il devait y en avoir une.
Ah, d'accord.
Et elle a été changée au final et il n'y aura pas de conférence chantée.
Si, peut-être moi, on ne sait jamais.
Éventuellement, ça peut s'improviser.
C'est ça.
Et alors, qu'est-ce que la musique nous apprend, en fait, des sociétés dont elle sent les contemporaines ? Parce que c'est que ça doit apprendre quelque chose, quand même.
Oui, bah, la musique, c'est l'une des productions culturelles dont chaque société, dont chaque époque accouche. Et à travers cette production culturelle, bah, on comprend... les valeurs. Tout à l'heure, Clément Rotureau évoquait la conférence de Laurent Rop sur les psaumes. Voilà, la musique, jusqu'à une date très récente, finalement, c'était essentiellement de la musique sacrée. Le répertoire musical, il était avant tout sacré. Il y a toujours un répertoire profane, mais finalement, à travers la musique, c'est aussi le rapport à Dieu qu'on peut comprendre. Puis ça témoigne aussi des techniques d'une époque. Évidemment, on ne joue pas de la musique. Ça, j'en parlerai peut-être un petit peu avec Mersenne, mais... Les luttes du XVIIe siècle, ils étaient en boyaux de mouton, donc ça avait tout un tas de conséquences hein, sur la façon dont les instruments sonnaient. Voilà, le la au XVIIe siècle, il n'était pas à 442 Hz, il était beaucoup plus bas parce que les instruments à cordes ne permettaient pas d'avoir cette tension-là. Donc c'est aussi un observatoire des techniques, c'est un observatoire des valeurs, des mœurs, des rapports de pouvoir. La musique, elle sert aussi aux puissants à se donner une identité, de la même manière qu'il y a des communicants autour de nos hommes politiques actuels, pardon, il y a des musiciens de cour autour des hommes de pouvoir à l'époque moderne qui sont aussi là pour chanter leur louange ou pour les accompagner dans l'espace public. Donc c'est un point un observatoire de tout ce qui fait la marque d'une société.
C'est étonnant cette évolution que vous soulignez de caractère sacré à plus discipline artistique, etc. Il y a eu un moment de rupture dans l'histoire de la musique où ce caractère sacré, il a un peu disparu
Alors, c'est, disons, graduel. Votre entrée en matière est très juste, c'est-à-dire que la musique au XVIe siècle, on ne lui demandait pas d'être divertissante, on lui demandait d'abord... La musique, c'était plutôt une morale, en fait, avant d'être un divertissement. Après, il y a toujours eu un répertoire profane et populaire aussi qui a accompagné la vie des sociétés, les grands événements de la vie en communauté, les mariages, les naissances, etc. Maintenant, le moment où le répertoire profane prend le dessus sur le répertoire sacré, je dirais que ça se passe essentiellement au 19e siècle, en fait.
Hein. D'accord. Ouais.
Avant, c'est pas trop le cas.
Ouais, donc c'est relativement récent, en fait.
Oui, mais je dis ça sans être musicologue. Donc je dis à tout le monde de bien vouloir m'excuser.
Alors, la journée, en tout cas, se finira sur un blind test à Eve. En quoi va consister ce blind test ?
Non, on va faire un blind test en famille, style famille en or.
C'est-à-dire ?
On va faire des équipes de 5.
D'accord.
Chacun choisira un nom de famille qu'il veut, qu'il soit drôle, un vrai nom de famille, cela ne sera pas le but. Et on fera différentes catégories. Donc ils peuvent là aussi d'aller de la musique française des années 60 ou 70.
Okay.
Et chaque famille, on verra une personne qui répondra à ce blind test-là.
Ça marche.
Voilà. Moi, je participerai au blind test en jouant d'instruments dont je ne sais pas jouer.
D'accord.
Et l'enjeu pour le public, ce sera de reconnaître malgré tout les morceaux que j'essaierai de jouer.
Ah ouais.
Et je serai normalement accompagné pour cette occasion par Nicolas Bongrand.
Ah oui,
voilà, qui c'est aussi pour ça qu'on a un peu fait le thème sur la musique, c'est qu'on a relancé une formation à l'Université du Mans, la licence professionnelle gestion et développement des structures musicales, qui est gérée de main de maître depuis un peu moins d'un an par Nicolas Bongrand, et qui normalement m'accompagnera demain. D'ailleurs, s'il nous écoute, je compte sur toi, Nicolas. Sois présent demain, s'il te plaît. Et qui m'aidera à faire ce blind test un peu loufoque.
Ça marche. Et alors, pour terminer, est-ce que cette journée est gratuite ?
Oui.
D'accord.
Gratuite, ouverte à tous.
On fera quand même passer un chapeau pour les artistes qui chantent.
Mais oui, non, elle est gratuite et ouverte à tous, sur toute la journée.
Et alors, où est-ce qu'on peut consulter le programme ?
Alors, le programme, on peut le retrouver sur le compte Instagram de l'AEH, sur celui de Histoire Le Mans, je crois qu'il a été mis aussi, mais je ne suis pas sûr, et sur le site des Nocturnes de l'Histoire.
Ok.
Où on a décidé cette année de se relier à eux, qui ont aussi des animations sur toute la journée et partout en France.
Et d'ailleurs, si l'AEH a d'autres projets à annoncer, c'est le moment.
On a une conférence sur les fouilles de deux professeurs, donc Madame Modet et Madame Lanchini, qui aura lieu le mardi 9 avril à 18h30.
Ça marche.
Quel amphi, je ne sais pas encore, mais...
Ça marche, merci beaucoup. Merci Clément Rotureau et Aurélien Ruillet pour être venus nous parler des 12 heures de l'histoire sur le thème de la musique. Et c'est ce 27 mars à l'université. Merci beaucoup.
Merci à tous.
On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez gagner des places pour Johan Launay et la finale du concours pop francophone le 31 mars au Palais des Congrès à 14h en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute donc Jean-Luc Le Ténia, Je chante la nuit.
Toute la journée, je chante la nuit. Toute la journée, je chante la nuit. Toute la journée, je chante la nuit. Toute la journée, je chante la nuit. Et je rêve d'embrasser les lèvres. Et je rêve d'embrasser les lèvres de cette jeune fille si belle, de cette jeune fille si belle. Mon manteau vert me protège de l'hiver, mon manteau vert me protège de l'hiver, mais pas du ciel de tes yeux si clairs. Mais pas du ciel, de tes yeux si clairs. Le temps espace, mon corps du tien. Le temps espace, mon corps du tien. Mon chant se place juste sous tes seins. Mon chant se place juste sous tes seins. Il faut souffler sur les fantômes, il faut souffler sur les fantômes. Si tu veux qu'ils disparaissent, si tu veux qu'ils disparaissent, chaque fois que tu fredonneras, chaque fois que tu fredonneras. Cette chanson, je me glisserai en toi, cette chanson, je me glisserai en toi toute la journée. Je rêve la nuit, toute la journée. Je rêve la nuit. Si tu rêves de moi, je te rêve aussi. Si tu rêves de moi, je te rêve aussi.
De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, on est avec Ismaël. Salut Ismaël. Ah, alors attends, tac, voilà, ça sera mieux comme ça.
Bonjour.
Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vais vous parler du développement personnel.
Ouais, ça marche, et ben on t'écoute.
Le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis. Souris à la vie et la vie te sourira. Tout le monde a déjà entendu ce genre de phrase type développement personnel. Et on a toujours ce sentiment que quand même dans ces phrases, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose d'un peu malaisant. Et aujourd'hui, je vais essayer de comprendre ce qui rend ce genre de phrase aussi gênante. Donc pour ça, c'est incontournable de comprendre ce qu'est le développement personnel. Alors essayer de trouver des principes de base au développement personnel, ça peut être assez compliqué, parce que c'est pas un courant formellement délimité, c'est très fluide, il n'y a pas de référence entre guillemets de base comme il peut y en avoir pour le marxisme ou par exemple la psychanalyse. C'est donc une philosophie, une sorte de vision du monde et de l'existence. Cette philosophie, elle est originaire des États-Unis et elle se dit « self-help » en anglais, littéralement « s'aider soi-même ». En gros, l'idée du développement personnel, c'est que la clé du bonheur, elle se trouve en nous. Pour être heureux, il faudrait travailler sur soi, se prendre en main, arrêter de se trouver des excuses, parce que le plus gros obstacle à notre propre bonheur, ça serait simplement nous-mêmes. Tout le monde aurait cette petite force cachée en soi, tout le monde aurait le potentiel non seulement de devenir heureux, mais aussi de s'en sortir, de réussir dans la vie, tant qu'on y mettrait du sien et qu'on montrerait qu'on veut vraiment réussir. Ainsi, la vie serait un genre de course où chacun devrait disposer du droit à courir vers son propre bonheur, en allant puiser en soi-même les ressources pour atteindre ce bonheur. Il y a un courant de la psychologie qui est très proche de cette vision du monde et qui est souvent mis à contribution en même temps que le développement personnel, la psychologie positive. Le principe, c'est en gros qu'il faut avant tout mettre l'accent sur ce qui est positif dans la vie, trouver le bonheur dans les petites choses et même dans les moments les plus durs. Ça nous pousse à mettre l'accent sur des émotions comme la joie ou la fierté par exemple et à refuser les émotions négatives comme la colère ou le mépris dans l'objectif d'arriver à une fin du malheur et à créer une société dans laquelle tous seraient heureux. Et donc on voit facilement le lien avec le développement personnel, dans la mesure où on met à chaque fois l'accent sur l'individu qui devrait se prendre en main pour devenir heureux en travaillant sur lui-même, en utilisant les ressources dont il dispose. Concrètement, la psychologie positive et le développement personnel, on peut retrouver ça un peu partout dans le monde aujourd'hui. Évidemment dans les thérapies psychologiques ou psychiatriques, mais aussi dans le monde du travail, sur les réseaux sociaux avec les chaînes YouTube de développement personnel ou les célèbres comptes motivation-du-bas millionnaire, dans la littérature, à un tel point que les librairies, elles ont souvent un rayon entier qui est consacré, ou même dans la publicité avec le célèbre Just Do It de Nike. Le bonheur, le bien-être, les émotions positives, tout ça c'est désormais une préoccupation sociétale de premier plan, au point qu'on met désormais aussi en avant le bonheur de la population pour mesurer la réussite des politiques publiques. Tout le monde a déjà vu le classement des pays les plus heureux du monde avec toujours la Finlande en haut tous les ans. Et un des gros arguments de ces idées, c'est qu'elles seraient globalement inoffensives. Comme le dit le psychiatre partisan de la psychologie positive Christophe André, au pire, ça ne fait pas de mal, et au mieux, ça fait beaucoup de bien. Les gens qui sortent d'un séminaire de psychologie positive ou le développement personnel, ils sont en général plus heureux, et ce serait la preuve de l'intérêt de la psychologie positive et du développement personnel. Pourtant, depuis quelques années, plusieurs sociologues, historiens et philosophes, ils ont mené des travaux qui s'intéressent aux dégâts qui sont faits par la diffusion de la psychologie positive et du développement personnel au sein de la société. Une grande partie de ces critiques portent sur les principes théoriques de la psychologie positive. Le sociologue belge Nicolas Marquis, il explique que la psychologie positive et le développement personnel, il rapporte tous les problèmes psychologiques que peut rencontrer une personne à elle-même, à une cause interne. Et précisément, quand on est malheureux, la chose qu'on espère le plus, c'est que quelqu'un vienne nous dire qu'il peut en être autrement et que la marge de manœuvre, elle est chez nous. Ainsi, quand on adopte cette approche, à chaque fois qu'on fait face à un malheur ou à une contrariété, la première question qu'on se pose, c'est comment je peux moi-même, en tant qu'individu, trouver une solution pour résoudre ce problème, et pas, par exemple, pourquoi j'ai ce problème ou à cause de qui. Pourtant, attention, je vais enfoncer une porte ouverte, mais le malheur et la contrariété, ça peut être parfaitement logique, ça peut être des réactions parfaitement normales. Par exemple, une personne qui vit sous le seuil de pauvreté et qui ne peut pas se nourrir correctement, s'habiller, faire accéder ses enfants à la culture ou à l'éducation, elle est logiquement malheureuse. Cette situation, elle est déplorable, évidemment, et il faut que ça change. Mais le fait d'être malheureux, c'est logique dans cette situation. Et précisément, ce serait être heureux ou satisfait de cette situation qui ne serait pas normal. Et en fait, notre état psychologique, et ne peut pas être systématiquement rapporté à des causes internes qui seraient en nous. On évolue dans un cadre qui est déterminant pour notre bonheur et notre bien-être. Or, quand on approche chaque problème en se demandant comment on peut travailler sur nous-mêmes, on va systématiquement responsabiliser l'individu en sacralisant sa volonté propre, en ignorant les conséquences du cadre et de la situation sur son propre état psychologique. Et ce décalage, ça peut être la source d'un double malheur, parce que d'un côté, on est malheureux, et en plus, on est accablé de l'échec de ne pas pouvoir parvenir à être heureux en travaillant sur soi-même. Donc ça, c'est une critique théorique de la psychologie positive et du développement personnel. Mais on peut aller encore plus loin parce que leurs applications concrètes, elles sont encore plus problématiques. Dans le monde du travail, la psychologie positive et le développement personnel ont trouvé tout un champ d'application. En poussant les employés à se montrer positifs, à rejeter les émotions négatives, d'une certaine manière, en les obligeant à être heureux, on crée en fait en masse du consentement. La sociologue Eva Ilius nous explique que l'autre nom en fait de la positive attitude au travail, c'est la docilité. Dans un environnement de travail maltraitant, toxique, au sein duquel les horaires de travail sont trop longs ou la hiérarchie elle est trop autoritaire, on va inciter les salariés à travailler sur leur propre psychologie pour permettre le fonctionnement de l'entreprise. Ainsi, on place d'abord des gens dans des situations, dans des structures où ils ne peuvent pas tenir mentalement et psychologiquement du fait de la cadence de travail, de la difficulté des tâches, du rendement exigé, etc. Et puis ensuite, on les adapte à la structure en les incitant à modifier leur comportement avec de la psychologie positive ou du développement personnel. Comme on les pousse à travailler sur eux-mêmes, on va aussi écarter toutes les solutions qui modifieraient potentiellement le cadre de travail, comme le syndicalisme, le temps de travail ou les congés payés. Et puis, le stade final de la psychologie positive et du développement personnel, c'est l'application en politique. Le bonheur, ça devient l'enjeu essentiel pour toute la société, et le but d'un homme politique, sa vocation première, c'est d'assurer le bonheur de ses citoyens. On a déjà évoqué le classement des pays les plus heureux du monde, dominé par la Finlande et les pays scandinaves. L'homme politique anglais David Cameron, il avait, lui, organisé en 2010 toute une campagne sur l'idée du bonheur et de bien-être, tout en proposant en même temps des économies énormes sur les politiques publiques et les aides sociales contre les plus pauvres. Un exemple d'application concrète de la psychologie positive et du développement personnel en politique, c'est le chômage. Les allocations chômage tendent à être conditionnées à la présence à des ateliers, des formations de job coaching ou à l'inscription dans des programmes d'activation comportementale où on apprend aux chômeurs à regarder les choses positivement. Ne pas se présenter comme chômeur, mais plutôt à la recherche de nouvelles opportunités, refaire son CV, se présenter de manière originale, etc. Pourtant, on sait bien que le problème, c'est pas le fait que les chômeurs y soient négatifs, mais c'est surtout qu'il n'y a pas assez d'emplois. Il y a en France quelques centaines de milliers d'emplois libres pour plusieurs millions de chômeurs. Et en fait, l'objectif, c'est toujours le même. Prendre un problème social, politique ou structurel, en l'occurrence le chômage, puis en faire un problème psychologique. On cherche à privatiser, à rapporter à une échelle individuelle une souffrance qui est en fait sociale, collective et structurelle. Et pourtant, un problème aussi massif et qui concerne autant de gens que le chômage, c'est par essence un problème politique et pas psychologique. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques, disait la philosophe Hannah Arendt. Et cette application de la philosophie de la psychologie positive et du développement personnel, en tant qu'individu, ça nous permet de changer de regard sur une situation qui peut nous réduire à l'impuissance. On se convainc qu'on a quelque part les ressources pour améliorer notre situation en nous-mêmes. Et du côté des hommes politiques, des managers et des dirigeants d'entreprise, ça permet de désamorcer de la conflictualité qui pourrait menacer la structure sociale et économique. Ne soyez plus en colère contre votre patron parce que vous travaillez trop ou parce que vous n'êtes pas assez bien payé. Ne soyez plus en colère contre votre président parce que votre université diminue le nombre d'heures de cours ou parce que c'est devenu impossible de trouver du travail. Concentrez-vous sur vous-même, restez positif parce que le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis et souriez à la vie et la vie vous sourira. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille la lecture de l'ouvrage de la philosophe Julia de Funès, Le développement impersonnel, qui est paru aux éditions de l'Observatoire en 2019.
Eh bien, merci Ismaël pour ta chronique. Je suis très content d'apprendre qu'à la fin de ce service civique, je serai en recherche de nouvelles opportunités. C'est formidable. Et merci à vous tous d'avoir écouté l'Amphi. On se retrouve mardi 26 mars pour parler de la nouvelle carte blanche des ambassadeurs des cinéastes, mais aussi découvrir une jeune poétesse, Cléa Provence, alias Sol par 3. À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.